17h07 en Basse-Côte-Nord. Vous avez sans doute entendu parler de ces hausses de loyers dans certaines résidences privées pour aînés, les RPA, des hausses de loyers qui peuvent aller jusqu'à 40% d'augmentation. On en parle beaucoup dans les médias ces derniers jours. Nos collègues du Bas-Saint-Laurent ont également enquêté de leur côté. Pour comprendre cette tendance à la hausse, la manière aussi dont ce marché est régulé, on va discuter tout de suite avec Lise Lapointe. Elle est présidente de l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec, l'AREC. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
Alors, cette tendance à la hausse, c'est une tendance qu'on observe un peu partout au Québec, Madame Lapointe?
Oui, bien, vous comprendrez que dans le contexte de la pandémie où on a dû probablement assurer plus de personnel et tout ce qui est sous-entendu, la formation, les médicaments, le matériel nécessaire pour contrer cette fameuse pandémie-là, nous amène nécessairement cette hiver, un peu plus particulièrement, à des hausses substantielles de logements. Donc, c'est une chose qui est inacceptable parce qu'on comprend bien que les aînés qu'on représente et ensemble les aînés de la société, ce sont des gens qui, pour la plupart, n'ont pas nécessairement des revenus si élevés. Mmh. Alors, de leur exiger 40% de plus d'augmentation, on a même entendu jusqu'à 500$ par mois de plus, ils ne l'ont pas l'argent nécessaire pour... subvenir à cet hébergement-là.
On va revenir sur la fragilité peut-être des aînés face à ces hausses, mais vous me dites les hausses liées à 100% à cause de la pandémie ou il y a d'autres enjeux là, à tenir en compte?
Il y a sûrement d'autres enjeux parce que je vais parler des climatiseurs dont on a parlé longuement l'été dernier dans certaines résidences privées. Il y a aussi les réparations d'usage, etc. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent générer des augmentations, mais cette année, elles sont plus faramineuses que de les autres années passées. Alors, on y associe une partie de la pandémie, bien sûr.
Mmh. Comment sont régulées les grilles de loyer dans les RPA? Est-ce qu'il y a des lois qui entourent cette pratique-là?
Pour le moment, il n'y en a pas. C'est exactement ce que nous, l'AREC, on exhorte au niveau du gouvernement d'intervenir parce qu'il devrait avoir une grille tarifaire pour les services qui sont rendus avec un prix pré-plafond, comme je peux appeler, et un minimum qui pourrait s'adresser aux services, parce qu'on peut distinguer l'hébergement des services, repas, etc., ménage, soins, etc. Alors, ça pourrait plus être pour les services un taux minimum selon l'inflation. L'inflation, tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire, et c'est normalement prévu par le gouvernement. Alors, on devrait aussi l'ajuster au niveau des RPA, et en même temps, essayer d'avoir quelque chose qui limite ces augmentations-là faramineuses, donc une grille qui dit pour une chambre de telle dimension, ça égale X montant. Puis le propriétaire ne peut exiger davantage.
Mmh. Il y a une pétition d'ailleurs qui a circulé durant tout le mois de janvier qui a recueilli des milliers de signatures. Maintenant, est-ce que ces RPA ne sont pas en mauvaise posture financière après une grosse année de pandémie? C'est comme ça qu'ils justifient ces hausses?
Bien, pas, moi, je dirais pas nécessairement, parce qu'on sait, puis on a des exemples. On vient d'avoir l'exemple d'une certaine résidence là, où on a eu un rapport dans les derniers jours qui illustre très bien que les propriétaires s'enrichissaient, puis les personnes hébergées en souffraient grandement. Si je comprends mal qu'un propriétaire de résidence privée ne ferait pas d'argent ou ne cumulerait pas ou ne retirerait pas un certain profit de maintenir ces édifices-là ou ces logements-là. Alors, pour moi, je suis pas mal sûre, puis j'ai presque la certitude, parce que sinon, ils vont investir ailleurs, ces investisseurs-là, qui veulent nécessairement avoir un surplus ou profiter d'eux, mais nécessairement, il faut que ça leur rapporte, là, quelque part.
Donc, vous ne seriez pas forcément en faveur d'aides gouvernementales supplémentaires pour ces RPA, afin que ce ne soit pas les aînés qui écopent de la facture?
Mais il faut que ce soit une paix. Mais je ne dis pas que les aînés ne doivent pas avoir d'augmentation. Ils pourraient avoir une augmentation minimum, une augmentation qu'ils sont capables de payer et non avoir un supplément. Puis s'il y a des choses qui peuvent être subventionnées ou aidées par le gouvernement, mais que les résidences privées ou que ces grands profiteurs-là, si je peux le dire ainsi, puissent s'adresser au gouvernement et obtenir de l'aide suffisamment pour permettre aux aînés qui sont hébergés d'avoir des soins de qualité et d'avoir un hébergement de qualité aussi.
Mmh. Est-ce qu'il y a un manque de transparence de la part des RPA concernant leurs finances et leur financement?
Oui, oui. oui, sûrement, sûrement, parce que vous savez que dans les RPA, il n'y a pas nécessairement de conseil d'administration, de comité de gestion. Alors, comme il n'y a pas ça, bien, c'est au bon soin du propriétaire ou de la direction de voir à ce que les augmentations qu'on suggère ou qu'on propose puissent être accordées. Puis je vais vous ajouter autre chose, si jamais une personne hébergée se plaint à la régie du logement parce qu'elle peut le faire et qu'elle obtient gain de cause par rapport à une hausse qui lui serait suggérée ou qui lui serait imposée, ce règlement-là ne s'applique pas à l'ensemble des personnes hébergées dans la même bâtisse. Alors, il faut que chacun fasse sa démarche et vous comprenez comme moi qu'à un certain âge, on n'a pas les habiletés nécessaires pour se plaindre un à un. Donc, il faudrait
Peut créer des injustices au sein d'un même établissement.
Exactement. Et il faudrait que si jamais on a une plainte et un règlement satisfaisant pour une personne, bien, que ça s'applique à l'ensemble des résidents, un point, c'est tout. Donc, ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire parce que les personnes hébergées n'ont pas cette capacité-là de se rendre jusqu'à la régie du logement.
Alors, avec la REC, vous essayez de solliciter le politique, la FADOC aussi, hein, avec cette pétition dont je parlais tantôt. Qu'est-ce que vous attendez du politique du gouvernement?
On a voulu intervenir auprès du gouvernement pour qu'il puisse être saisi d'abord de cette difficulté-là maintenant et en plus d'avoir le goût d'agir vraiment pour protéger les aînés qui sont hébergés. On a aussi inviter, bien sûr, les personnes hébergées qui entendent ou qui reçoivent une lettre ou une information à l'effet que le logement est augmenté, de les contester, même si je sais que c'est difficile, ou de s'adresser à d'autres organismes qui sont capables de les supporter, de les aider, dont nous. On a aussi commencé à monter un registre. On a invité les gens qui connaissent des situations désastreuses de nous faire part de certains renseignements pour qu'on puisse venir collaborer et aider les personnes. Et vendredi qui vient, donc vendredi prochain, vendredi matin, nous aurons, de par de l'ordre des marchés financiers, une conférence, un webinaire qu'on appelle maintenant, qui pourrait donner plus de renseignements et d'informations pour que les proches qui sont, ou les personnes hébergées, ou encore les proches qui sont répondants pour ces personnes-là, puissent être mieux informés et mieux outillés pour aider les personnes.
Est-ce qu'on a bon espoir d'être entendu, Mme Lapointe? On parle énormément de la situation dans les résidences pour personnes âgées, des difficultés qui ont été mises en lumière dans les derniers mois, des manières de faire dans certains endroits au Québec. Est-ce que vous pensez que le gouvernement sera sensible à vos demandes?
Bonne question. Est-ce que je dois vous répondre? Je vais vous répondre oui et non. D'abord, c'est pas la première fois qu'on intervient auprès du gouvernement pour apporter des correctifs sur différentes situations, entre autres dans les RPA, mais même aussi dans les résidences publiques, là, les CHSLD, ou encore les soins et services à domicile. Mais je vous dirais qu'à ce temps ici, entre autres dans le cadre de la pandémie, on n'a pas nécessairement beaucoup d'écoute. On a tendu la main aux différents ministères, soit la ministre des Aînés, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Puis, je vais vous dire, je ne suis pas nécessairement satisfaite des retours qui nous sont faits. Est-ce que maintenant, la priorité, c'est la COVID? Est-ce qu'une fois ça terminé, bien, on s'assoira puis on prendra le temps de trouver des solutions à toutes les problématiques qui sont énoncées ou qui ont refait surface ou qui ont fait surface depuis ce fameux 13 mars passé? Parce qu'ils étaient déjà au courant qu'il y avait de la maltraitance, qu'il y avait de l'insalubrité, qu'il y avait des difficultés majeures.
Ça a été mis en lumière d'une manière assez criante et parfois dramatique dans les derniers mois.
Et on le faisait. Et à chaque fois qu'on dénonçait ou qu'un centre était pris à partie, bien, il y a une solution qui était appliquée ou proposée, mais est-ce que cette solution-là s'appliquait à d'autres centres? Non, on réagissait à l'action qui était suggérée, mais rien de plus. Là, on n'avait pas non plus le goût de modifier ou de changer certaines pratiques. Alors ça, c'est pour ça que ma réponse, elle est mitigée. Ouais. Là, je suis assez inquiète par rapport à l'avenir. Je vais vous dire que nous, à l'arrêt, qu'on réclame des états généraux pour essayer de regarder exactement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on doit exiger pour l'avenir.
Vaste chantier, Mme Lapointe.
Ouais. Oui.
Lise Lapointe, vous êtes la présidente de l'AREC. Donc ça, c'est l'Association des retraités et retraités de l'éducation et des autres services publics. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.